Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la rade. On est ravis de vous retrouver. On avait hâte ce soir. Avec moi, j'ai Alex, Bastien, Gérald et ils sont chauds. Salut messieurs.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
Bon, ça fait 24 heures qu'on rumine ce match. J'imagine que vous aussi, vu ce que l'on a vu passer sur les réseaux sociaux, on a tous un peu les boules. Alors, on va faire notre séance de thérapie tous ensemble. Mais on a un menu chargé aujourd'hui parce qu'en fait, il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'infos. Donc, on va commencer par débriefer ce match. On vous parlera d'une news transfert assez incroyable. Restez avec nous pour savoir un petit peu ce qui se passe. On va ensuite faire un débat avec des stats, Bastien, à analyser. Il va nous raconter ce qui va se passer d'ici la fin de saison. On compte sur toi, Bastien. Et puis, on va terminer avec un rapport de la Cour régionale des comptes qui a été rendu public aujourd'hui et qui analyse en détail la gestion financière et administrative du RCT sur les 6 dernières années. Voilà, ça va être passionnant. Bon, on va commencer tout de suite par le débrief de ce match. Bon, vous êtes dans quel état d'esprit, là, 24 heures après, Gérald, là, c'est quoi qui prédomine, finalement? C'est la fierté? C'est la colère?
C'est tout ça en même temps. C'est énormément de fierté d'avoir vu cette équipe remaniée avec plein de minots à l'intérieur défier La Rochelle, là où beaucoup pensaient qu'ils allaient se faire défoncer. Et ils ont tenu le choc et ils les ont inquiétés. Et même à 10 minutes de la fin, on peut passer devant, ce qui était complètement fou. Fier et à la fois déçu, triste, énervé. Voilà, énervé parce qu'il y a des décisions qui restent là, qui restent en travers de la gorge, qui sont pas très bien comprises. Ouais. Et voilà, c'est un mélange de toutes ces émotions, mais on est content parce qu'on a vécu des émotions. Et c'est le plus important.
Bon, on a beaucoup débattu toute la semaine avant ce match sur la composition d'équipe. On n'était pas tous d'accord sur les choix à faire. On peut d'ailleurs ne pas forcément être d'accord sur ce qu'on peut en tirer. Mais Bastien, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'au vu de la composition d'équipe, la performance, elle est presque inattendue. On n'attendait pas l'équipe à ce niveau-là, quoi.
Elle est même remarquable, incroyable. Et je tire mon chapeau parce que j'étais le premier à penser qu'on allait prendre une valise, hein, vu l'équipe, le remaniement de l'équipe. Ben, force est de constater que Mignoni, pour le coup, avait raison. Il y a des joueurs qui n'étaient même pas au frigo, ils étaient au congélateur. Ils sont ressortis, ils étaient fringants, ils se sont battus. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai même pas de frustration, parce que justement, le plan de jeu, c'était celui-là, c'était tenir jusqu'à l'heure de jeu, faire entrer un peu la cavalerie, c'est ce qui s'est fait. Et au final, j'ai un sentiment bizarre, puisque, comme j'expliquais en off, j'ai l'impression presque d'avoir gagné, qu'on nous a volé le match. J'ai vraiment l'impression, j'ai pas tellement de critiques à faire. On va revenir après plus tard un peu sur les critiques de l'équipe et de certains joueurs, peut-être, et encore des critiques. Mais ils sont tellement filés, ils ont tellement envoyé, c'était tellement improbable que les décisions arbitrales, pour moi, m'ont gâché tout le plaisir et la surprise que j'avais. Donc pour moi, en fait, j'ai presque l'impression qu'on a gagné. En tout cas, je pense que les joueurs vont ressortir grandis de l'expérience. Mais on nous a volé le match, clairement. Là, j'ai même pas honte de le dire.
Ce qui est sûr, c'est que moralement, quand même, ce qui ressort de ce match, c'est un squad complet de 40, comme ils avaient dit, 40 joueurs unis, motivés. On les sent vraiment très, très motivés pour cette fin de saison. Et aussi, ça donne confiance, voilà, que même cette équipe B a pu tenir face aux avants et face à l'armada de La Rochelle qui était vraiment venue pour nous éclater après plusieurs semaines et même une saison assez difficile. Et vraiment, voilà, moi, je pense que moralement, l'équipe va quand même en retirer beaucoup de choses et peu d'équipes voudront nous jouer dans les playoffs parce que on est vraiment une équipe difficile à jouer. On a un gros pack, on a une grosse touche, on a une grosse défense, on a un gros coup de pied avec Jaminet quand on met l'équipe 1. Maintenant, quand on voit comment l'équipe B, les jeunes, s'y filent, je pense qu'on peut ressortir quand même avec de la confiance de ce match.
Mais surtout que ce niveau de performance, il était presque inattendu, parce que tu as des joueurs qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Rabu, Youyout, Coulon, c'est des mecs, même à la GAU, et ça, on s'en déplaint ici, mais ils ont très peu joué et ils ont montré des attitudes vraiment auxquelles je ne m'attendais pas.
Ou des mecs qui ne jouaient pas à ce niveau-là, comme Vainicolo, par exemple, qui était à côté de la plaque depuis 6 mois.
Ouais. C'est incroyable la différence qu'il y a avec des matchs comme on a fait, par exemple, à Pau, au Racing, avec des équipes... Au Racing, plutôt, avec une équipe remaniée, où il n'y avait rien, c'était le néant complet, et on pouvait s'attendre à ça, à La Rochelle, etc. Et bien, à l'arrivée, non, pas du tout. Il y a un déclic qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est une sœur indépendance? Non, je...
Je pense que l'arrivée, le retour des leaders en forme sur le terrain et les victoires qui ont donné confiance ont vraiment... voilà, en fait, les équipes comme ça, il y a beaucoup de momentum, soit vraiment ils perdent le fil comme on l'a vu, et on peut perdre 10 matchs sur 13, et cette même équipe, elle peut battre Toulouse, elle peut accrocher La Rochelle, et tout ça, c'est vraiment une forme de confiance que, je pense, les leaders ont réussi à insuffler, et aussi les entraîneurs qui ont réussi à remettre un petit peu la tête dans le guidon de toute l'équipe.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez surprenant quand on analyse, quand on regarde la composition d'équipe, c'est que c'est une équipe qui est pas, il lui manque la plupart de ses leaders de jeu. Mmh. Voilà, il y a pas Olivon, en tout cas au moment de démarrer, il y a pas Abadi, il y a pas Serein, il y a pas Bobigny, enfin je veux dire, il y a pas Jaminé.
Il y a pas Lester ni Duncan.
Il n'y a pas Lester ni Duncan ni Vaizea qui à l'époque étaient voilà les titulaires. Donc là, quand on voit cette compo, on se dit effectivement, on va craquer, c'est un peu le même type d'équipe qu'on avait cet hiver quand ça tournait pas, et non, il y a un déclic en fait, peut-être Gérald, qui est de l'ordre psychologique là,
oui c'est vrai, mais en même temps moi cette compo je la compare un peu à celle qu'on a envoyée à Clermont, et je trouve qu'on a fait à peu près le même match avec Clermont,
sauf que La Rochelle c'est pas Clermont,
oui ça bien sûr là. D'accord, mais en tout cas sur l'attitude des jeunes et l'attitude des mecs quand tu vas avec cette troisième ligne là, et eux ils arrivent à se mettre en, tu sens que ils se montent le bourrichon entre eux, ils arrivent prêts au combat, et en fait avec ces gamins là on a une certitude, c'est que ce sont des guerriers, on a une certitude, c'est que
même Marius Domon l'a dit,
ouais ils défendent le plomb, ils gardent la ligne, ils plaquent sans relâche, on a cette certitude que ces mecs là ils savent faire ça. Maintenant il faut que ces gars-là aussi, ils arrivent à être aussi brillants ballon en main, parce que pour l'instant, on les a surtout vus sur le registre défensif. Il faut qu'ils soient brillants ballon en main, et il faut qu'ils arrivent à briller avec autant de volume que quand ils sont au milieu des titulaires. Ce qui manque encore un petit peu.
Après, tu vois le top 14. Vas-y, Alex, pardon.
Ouais, non, ce que moi, c'est. Je pense justement, on a mis quand même beaucoup de joueurs de ballon. Et on a vraiment stratégiquement, je pense, choisi de jouer, on va dire, à la Toulousaine, beaucoup de ballons d'attaque. Et je pense qu'on voulait vraiment fatiguer cette équipe puissante et lourde de La Rochelle. Et je pense que c'était pas mal, surtout quand on a vu, il y avait Garbizzi, Smiley, qu'on avait discuté ensemble, qui ont vraiment très bien marché. Domon, je trouve, est un joueur avec énormément de talent. Sur les ailes, Twikouvou a fait un super match. Vainicolo apporte toute sa vitesse. Je pense qu'on avait une équipe qui, malgré le manque d'automatisme, a vraiment essayé, en tout cas, d'amener beaucoup de volume de jeu. Et pendant quand même 25 minutes, voire 30 minutes, c'était quand même très bon au niveau de l'attaque. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques pertes de ballons, notamment à cause de ça, on se prend un compte. C'était pas parfait, bien sûr. Mais même Rabiot, on a même vu Rabiot faire 2-3 percées, quelque chose, on ne savait même pas qu'il pouvait faire ça. Vraiment, c'est une équipe qui est venue avec une idée très offensive, une idée vraiment de bouger, de mettre toute sa jeunesse, sa vitesse dans le match, et c'était vraiment un début de match intéressant de notre part.
Ouais, mais La Rochelle, tu sais qu'il faut les bouger. Il faut obliger cette équipe à bouger énormément. Le Leicester, ils les ont explosés comme ça physiquement parce qu'ils sont lourds, ils sont épais, et ils ont perdu ça par rapport à la grande équipe de La Rochelle qu'on a connue il y a 2 ans ou 3 ans, c'est qu'ils ont perdu en mobilité. Ils sont beaucoup plus lourds. Là, tu sentais qu'il y avait des fois des mecs pour se relever, ça mettait un peu de temps quand même. Et puis devant, tu vois, ils ont perdu aussi en percussion, notamment sur la ligne de trois quarts où un garçon comme Danti nous a fait aucun dégât quoi, sur ce match.
Attends, mais après, les mecs ont été surpris aussi. Honnêtement, moi, ce qui m'a le plus marqué sur ce match et sur les quelques derniers matchs, même contre Toulouse, c'est la défense. On a vraiment une défense féroce.
Ah oui.
Une défense agressive. Oui.
Et qui s'est beaucoup améliorée. Et qui s'est beaucoup améliorée.
Et c'est ça, moi, qui me donne du baume au cœur pour la suite, de l'espoir pour la suite. C'est que ça s'est beaucoup amélioré. Et c'est qu'aujourd'hui, dans le top 14, si tu n'as pas de défense, tu peux rien espérer. Regardez Paris. Paris est premier en ayant, ou peut-être deuxième maintenant avec tout, je ne sais plus comment ça s'est fait le classement, en ayant une attaque minable, en ayant marqué le moins de points, en ayant marqué le moins de pénalités. Ils sont nuls en attaque, mais ils ont une défense incroyable. Ils sont premiers. Alors, c'est moche, mais ça gagne. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des joueurs de ballon derrière avec une grosse défense. Twikouvou, il avait raté des matchs en défense. Là, il a plaqué. Ouais.
Domon, pareil.
Il s'est chopé Skelton 2-3 fois en face à face. Eh bien, il ne s'est pas défilé, le gamin.
Garbizzi
a chopé.
Aussi.
Garbizzi a été énorme sur Danti.
Et je regardais Vainicolo. Même Vainicolo a plaqué.
Ouais.
Tout le monde a plaqué.
Ouais.
Tout le monde a dit
Vainicolo en défense, il a
été. Je pense que La Rochelle a été surpris.
Oui.
Mais La Rochelle, ils ont été surpris. Dans les premiers rucks, ils ont pris des...
Ouais, mais en fait, c'était ça le plan de jeu en défense. C'est qu'on a plaqué à deux tout le temps, un haut et en bas. C'est-à-dire que La Rochelle est tellement costaud devant que... ils font des passes en play contact tout le temps avec des mecs comme Skelton, avec Botia, avec Antonio, avec Aldrit. Donc, on a plaqué à deux tout le temps. On les a ralentis dans tous les rucks. C'est-à-dire que là où, contre Toulouse, dans les rucks, on avait été catastrophique, là, des morts de faim qui a ralenti tous les ballons sur les rucks. Donc, en fait, tu leur enlèves tout leur volume et tu leur enlèves aussi leur capacité à faire des passes après contact devant la défense, dans les gros, quand ils percutent et qu'ils enchaînent comme ça et tout. La Rochelle est une machine incroyable quand ils arrivent à enchaîner. Et le fait de les ralentir énormément dans les rucks et de les plaquer à deux, on les a vraiment anéantis offensivement. Et après, derrière, de toute façon, comme c'est plus huilé, La Rochelle, et que c'est plus la La Rochelle d'avant, derrière, ils ont fait un paquet d'en avant, de passes de merde, de choix à la con avec des diagonales en vue de
envoyer
à la
ville. Parce que tu les agresses. C'est pour ça qu'ils font des erreurs. Et surtout, comme tu dis, tu les plaques à deux, mais les mecs derrière, ils se relevaient et se plaçaient. Je me suis dit, au bout de 40 minutes, on va être capot ouvert. Mais pas du tout. Et ça, c'était incroyable. Ils s'y attendaient pas, La Rochelle. Et tu vois, c'est ça qui est paradoxal dans ce match. C'est que les avants, ils ont mangé dans les rucks, on les a mangés sur les plaquages, on les a mangés sur agressivité, sur intensité, et pourtant, les deux ou trois essais de La Rochelle viennent par les avants, la mêlée a été défaillante, alors qu'on a très bien défendu les groupés pénétrants. C'est vraiment paradoxal. Ouais. On les a mangés sur des aspects de devant, et on s'est fait aussi manger sur d'autres aspects de devant, ouais, c'est vraiment paradoxal.
Mais ils ont marqué sur leur point fort.
Ouais, oui,
et ils ont marqué surtout en fin de mi-temps les deux fois. Donc on a quand même énormément défendu. On s'est pris quand même des autobus dans la gueule pendant
les stats de plaquage sont assez impressionnantes. Hein. Je veux dire, Coulon, 12 plaquages en 61 minutes. Garbizi, 12 plaquages. Gros, 20 plaquages en 54 minutes, parce qu'il a pris en plus un carton. Alagahu, 11 plaquages en 52 minutes. Le Corvec, 15 plaquages en 46 minutes. Enfin, Rebadj, 16 plaquages. C'est impressionnant. Saint-Zel, 13 plaquages.
Ouais, ouais. Et d'après vous, pourquoi on a dû plaquer autant?
Vainicolo, 11 plaquages, c'est son record à mon avis ça.
Oui, ça, non, mais tout le monde a plaqué. Et pourquoi La Rochelle a eu autant le ballon aussi? Mais parce qu'on n'a jamais vu une équipe aussi peu pénalisée, et à l'inverse, nous, une équipe autant pénalisée. Donc à un moment donné, l'arbitrage fait que ça oriente le match, et ça, du coup, ça joue sur le résultat. Et c'est pour ça que là, quand depuis tout à l'heure, on les encense, on dit la vérité, les mecs ils s'y sont filés, c'est incroyable ce qui s'est passé, et pourtant on a perdu. Donc ouais. Le facteur, il est là, hein, je suis désolé.
Oui, mais après, on va reprendre le match, peut-être. Oui, d'accord,
non, mais c'est plutôt la page globale.
5 pénalités à 15-1 sur ce match.
Oui, oui.
Dont 3 dans les 5 dernières minutes pour La Rochelle. Donc, ouais. C'est-à-dire que jusqu'à la 70e, ils n'avaient que 2 pénalités. Ouais. Et ça ne s'est jamais vu. Surtout quand tu vois que les mecs, ils se font manger dans les rucks, on les a fait reculer dans les rucks. Plusieurs fois, l'arbitre a été très lent à siffler, voire pas du tout siffler contre eux.
Oui, je suis d'accord.
Par contre, contre nous, c'était très rapide.
Il ne faut pas. Là, on en.
Non, si, à un moment donné.
Mais tu as raison. Tu as raison sur le déséquilibre de faute sifflée. Bon, après, quand tu défends autant, forcément, tu vas avoir plus de faute que l'équipe adverse qui a plus le ballon. Je crois qu'on finit à 65-35 ou un truc comme ça. C'est monumental en termes de possession.
Donc, parce qu'à chaque fois, tu te pénalises, du coup, tu peux pas garder tes possessions.
Ouais, si mais c'est pas que...
On n'a pas spécialement... Attends, en touche, on n'a pas perdu trop de touches, on n'a pas perdu trop de mêlées.
C'est pas que ça. Tu perces pas avec tes gros aussi. Eux, ils nous percent avec leurs gros. Nous, avec nos gros, on avance bravement.
On est quand même dominé. Hein.
Mais oui, on break pas.
On a un défaut de puissance. Dans ce match, on a un défaut de puissance devant qui...
Bien sûr, tu les arrêtes sans ballon, mais avec le ballon, à part si tu joues vite sur les ailes, si tu vas vite sur les ailes sur Wanicolo et tu couvres comme on l'a fait sur 2-3 lancements, on avance beaucoup. Mais quand t'es devant là, au gros là, avec les autour des rucks, que tu fais un temps de jeu, un deuxième temps de jeu, t'avances jamais. T'avances pas. Et c'est normal. On s'est pas usé dans ce système de jeu là. C'était même pas la peine d'y penser.
Les gars, on joue une demi-heure à 14 en plus, hein, dans tout ça. On joue une demi-heure à 14.
Non, mais d'accord.
Et du coup, dans les stats que donne Aurélien, là où c'est très bien et ça montre quelque chose, c'est que autant de plaquages en ayant joué à moins, c'est-à-dire qu'il y a de la solidarité. C'est-à-dire que ce qu'on ne voyait pas avant, au mois de février, les mecs se donnaient pour le copain à côté.
Oui.
Et ça donne espoir pour la
suite. Oui, mais ça, on le voit depuis 3-4 matchs déjà.
Complètement.
C'est évident qu'il y a plein de points positifs. Alors, sur l'arbitrage, au global, c'est vrai que l'arbitre de champ. Effectivement, alors on avait eu à l'époque un arbitre qui était venu, Cardona, qui nous avait dit, il avait dit à demi-mot, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a un arbitrage maison qui est institutionnalisé, mais c'est vrai que quand on est dans un stade blindé qui pousse derrière, c'est vrai que ça peut influencer à un moment un petit peu d'une façon ou d'une autre. Donc ça, je trouve que ça s'est vraiment ressenti. Puis alors, l'arbitre vidéo, je trouve que là, ça a été mais hallucinant. C'est-à-dire que lui, il ne s'en cachait même pas, c'était à sens unique. Je veux dire.
Attends.
On va commencer quand même par le plaquage sur Smiley.
Voilà, commençons par
c'est ça qui est incroyable.
Un attentat.
Incroyable.
Il se baisse parce qu'il y a un instinct de survie. S'il ne se baisse pas, il meurt.
c'est carton orange, quoi. C'est à la limite entre le carton jaune et rouge, quoi.
Donc, même s'il met pas de carton, mais qu'il le revoit, oui. Ça n'a même pas été revu. Forcément. Je ne comprends pas.
Forcément.
C'est pas revu, c'est pas dans le résumé de Canal+. Enfin, on va pas crier au complot, mais Canal+ ne file pas les images, les arbitres ne demandent pas, l'arbitre vidéo qui va être tatillon pour le moindre truc contre toi, là, ne redemande pas. En fait, Smiley, quand tu... et en plus, et le pire derrière, il prend un critère 1. Ouais. Ça veut dire que le médecin lui dit non, toi, tu n'as plus le droit de jouer parce que tu as pris un KO parce que le mec t'a tué.
Ouais, mais le médecin, mais il a tué raison.
Il a pas trébuché quand même.
Parce que l'image,
le médecin, il a tout à fait raison.
L'image, bien sûr, elle est terrifiante. Hein. Elle est terrifiante. Il a les bras en l'air comme ça. Il est figé par terre. Elle est terrifiante, l'image. Hein. Moi, j'ai cru qu'il allait pas se relever. J'ai fait, c'est dramatique. Hein.
Et pourquoi il est dans cet état-là ? Pourquoi est dans cet état-là ?
Quand le médecin lui dit ça, je vois pas pourquoi à ce moment-là, il y a pas un des deux ou trois arbitres qui dit attendez, on va revoir les images.
Ça devrait être obligatoire
dans tous les matchs.
Mais oui, bien sûr.
Et même quand les mecs qui se disent aussi Mignoni et le capitaine Alagaü qui doivent aller un petit peu taper du poing sur la table.
C'est peut-être là où on a payé un peu l'inexpérience d'Alagaü et la gentillesse, si je puis dire, d'Alagaü, parce que je pense que là, un Baptiste Serein.
Ah, mais si c'est Baptiste ou Charles, si c'est Olivon capitaine, il va aller voir la vidéo.
Rien que pour respecter
Olivon, il va y aller voir la vidéo. C'est obligé. C'est obligé.
Je suis d'accord avec vous, mais tu as d'autres joueurs sur le terrain. Mais là, c'est inadmissible. Si le mec il prend un critère 1, c'est-à-dire qu'il a un choc à la tête. Le choc à la tête, sur un plaquage, il n'a pas gratuitement. Au moins, tu regardes, il peut dire ah, ben c'était la hanche, ah, c'était le genou, ah, ben finalement, il a fait un malaise. Non, le mec, il le décapite.
Ah ouais.
S'il ne se baisse pas, il se baisse par instinct de survie. Il le voit arriver comme
une balle. Je crois qu'il glisse.
Je sais pas trop, mais ça se trouve dans tous les cas, on peut pas savoir.
Qu'il le voit arriver, on le revoit pas. 100 000 à l'heure.
Non, il le remonte. En fait, il prend une passe au départ qui est dégueulasse de Garbizzi. Il est obligé de prendre la balle au-dessus de sa tête, donc il est déjà sur ses appuis pas terribles. Il avance un peu et là, l'enchaînement. Je vais chercher la balle au-dessus de ma tête, les bras tendus, et je fais ma course. En fait, il glisse. Pour moi,
le peu qu'on a vu,
il
n'encercle pas, il envoie l'épaule et tout. Non, mais il envoie l'épaule, il n'encercle pas.
Le tennis se baisse un peu, mais les bras sont pas en position de plaquer. On n'est pas du tout sur un truc légal. Enfin, pour moi, tu dois au moins la vidéo quoi qu'il arrive. Voilà. On doit
la semaine dernière, Brian, il prend un rouge. La semaine dernière, Brian prend un rouge. Il est justifié pour moi. Mais là, c'est la même action. Et des plaquages comme ça, t'en as tous les week-ends. Donc, soit les mecs se mettent d'accord, soit non.
Dans l'autre sens, dès qu'il y a eu un plaquage au Toulonnais, il a été sanctionné, il a été revu en détail à chaque fois. À chaque fois, ils ont discuté de est-ce qu'il y a une circonstance atténuante ou pas, est-ce que ça arrive sur l'épaule, sur le cou, sur la tête. Enfin, je veux dire,
il y a même pas eu
ce match-là. Non, mais ils n'ont rien lâché. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que quand il y a le carton jaune de Danti, c'est pareil, c'est qu'à la base, il ne voit même pas l'action.
Il n'a pas eu le carton jaune.
Il la voit par hasard. Ce coup d'en avant, il le voit par hasard parce qu'ils veulent vérifier s'il y a un essai Rochelet quand même.
Mais il ne met pas le jaune. Hein. Alors que là, c'est pareil.
Et l'arbitre central voulait mettre le jaune.
Ouais. Et c'est l'arbitre vidéo
qui l'a fait changer.
C'est l'arbitre vidéo. Mais de toute façon, l'arbitre vidéo, tu l'as compris direct. Sur l'essai de Teddy Thomas qui refuse. Parce que moi, je trouve que l'arbitre central, bon, il a refusé quand même des essais à La Rochelle. Il a des situations, tu vois. Sur l'essai de Teddy Thomas où le ballon, il fait un peu ping-pong, tu sais pas trop si ça touche la tête et tout. C'est pas très net.
Trois en avant.
Ouais. Mais si tu veux, c'est pas très net. L'arbitre central, d'entrée, il dit non, c'est bon, il n'y a pas essai. Et l'autre, il lui dit « Non, mais attends, on va le revoir, tu vas le voir là et tout. » Il insiste absolument pour lui dire…
Ouais,
on va revenir après sur le parce qu'on parle de l'arbitrage vidéo, sur le dernier essai, la vue du ciel, là. Quand il voit le ballon apparaître, mais il jubile le type, quoi. Il est là « Ouais, on voit le ballon, il y a essai !» Mais direct, mais c'est il était dans un état, ce garçon, mais t'avais envie de lui dire « T'inquiète pas, ils vont gagner. Ouais, » ouais. Ouais. Tout va bien se passer.
Inadmissible.
Et
c'est encore de l'amateurisme en France. Hein.
Non, mais c'est pas de l'amateurisme, c'est un scandale.
Si, c'est de l'amateurisme.
C'est juste un vendu.
Non, mais c'est les gars, on est un sport professionnel arbitré par des amateurs. Il n'y a jamais de remise en question. À un moment donné, là, moi, si l'arbitre il dit bah, écoutez, je me suis trompé, je me suis laissé influencer par l'arbitre vidéo, je me suis laissé influencer par le public de siffleurs de La Rochelle, je me suis chié dessus, eh bien écoute, ça ne changera pas l'histoire.
L'arbitre vidéo, c'était pas ça.
Jamais, ils auront jamais les bons.
Mais on a eu l'attitude d'un arbitrage vidéo déjà il y a 15 jours, pas pour nous, mais pour un autre match où carrément le gars, il le regarde, il parle à l'arbitre comme c'était de la merde, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas vérifier ça? Il est loin et tout sur un match, je crois que c'est un match de Toulouse ou je sais plus. Enfin, c'est honteux. Et à un moment donné, les arbitrages vidéo, il y a un moment donné, calmez-vous, quoi. Vous n'êtes pas les arbitres, en fait. Calmez-vous.
Vérifiez les images.
Mais maintenant, ça suffit, quoi. C'est bon, vous avez votre gros plan, vous êtes bien content, mais restez à votre place et laissez le mec qui est au milieu du terrain arbitrer. Alors déjà qu'il a eu un peu du mal, l'arbitre central, si en plus on lui fait un arbitre vidéo qui lui parle à l'oreille comme si c'était un débile et qui lui dit Tu vas faire ci, il faut faire ça, il faut valider, il faut machin. On va pas s'en sortir. Hein. On va vraiment pas s'en sortir. Au bout
sur le dernier essai, pour moi, il y a une double responsabilité. Il y a l'arbitre vidéo, puis il y a la réalisation aussi. Parce que je veux dire, qui choisit à un moment de remontrer ou pas les images ? C'est Canal, quoi. Ils choisissent de pas remontrer Smiley et sur le dernier essai, ils nous gardent une vue d'en haut, alors que ensuite, quand ils reviennent en régie à la fin, tu as Chabal qui dit, mais attendez, mais il y a une autre vue, une autre caméra qui montre bien qu'il y a un bras dessous. Mais putain, mais il y a 15 caméras qui filment cette action.
Si même Chabal le dit.
On voit une action vue du ciel. C'est quoi ce délire ?
Bah parce
mais
que
ça, ils avaient qu'à mettre la caméra, la Spider-Cam aussi.
On a inventé l'arbitrage Google Maps. Hein. C'est formidable, hein. C'est génial.
Ah ouais, c'est non, ça.
C'est le renouveau de l'arbitrage maison.
Moi, j'avais jamais
c'est
vu
l'arbitrage
ça
maison avec vidéo. Mais en plus, maintenant, t'as la vidéo. J'ai dit, putain, on a un sport professionnel, ça brasse des millions. On en a encore là à faire un débrief sur des décisions vidéo. Autant la décision de l'arbitre sur le terrain, allez, on peut rediscuter de tout. Mais là, c'est de la vidéo. T'as le temps de regarder, t'as le temps d'apprécier les images. Et le pire, c'est que sur le dernier essai qui nous vire le bonus, Serein vient défendre. Il dit non, défends pas. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout hors jeu. Il a raison de défendre. Du coup, il dit de pas défendre. Et l'autre, il va laisser. On peut refaire le match 100 fois. On s'est fait baiser.
Moi, je veux juste.
On a été particulièrement ciblés, nous aussi. Je pourrais peut-être parler de ça, Gérald, d'ailleurs.
En fait, En fait, dès le début du match, au bout de la 30e minute, ils ciblent le gros. En fait, c'est le type d'arbitre qui vont cibler des mecs, en fait. Tu sais pas trop pourquoi. Il y a des mecs qui se rassurent comme ça. Ils sont agacés par un comportement d'un joueur et ils vont le cibler pendant 10 minutes.
Bon, ben, JB. Fixette, surtout.
Ouais, JB Gros, au bout d'un moment, il le lâche pas et tu le vois, il lui parle, il lui dit plusieurs fois. Il lui siffle un grattage. Il n'y a pas du tout le grattage de JB, il est complètement OK. On prend 3 points déjà dans la tête. Et je m'étais dit, de toute façon, lui, il va prendre un jaune. Au premier truc qu'il fait pas terrible ou pas bon, il a dans la cible et il lui fait. Je vais juste revenir sur les 5 dernières minutes parce qu'il y a un autre joueur aussi qui l'a pris pour cible, c'est Coulon. Ce qui s'est passé à partir de la 75e minute et le grattage de Concourier, c'est une honte. D'abord, le grattage de Concourier, la 75e, il n'est pas bon. Il n'a pas le droit. Parce que Coulon, il est au soutien et le ruck, il le forme. À partir du moment où il forme le ruck, il n'a pas le droit de mettre les mains. Et vous regardez l'image, c'est clair. Coulon, il forme le ruck, il met les mains, ruck terminé. Tu n'as pas le droit de mettre les mains. Le grattage de Concourier, il n'est pas OK, il le laisse faire. On va en touche. Ils vont en touche, La Rochelle. La Rochelle, ils font un mol, ils avancent. OK, on se fait exploser un peu sur le mol. Coulon, il fait le tour. Mais allez voir les images. Hein. Il fait le tour, il se remet dans l'axe complètement pour pousser. L'arbitre le regarde, il voit qu'il est dans l'axe, il lève le bras et lui dit faute.
Mais
alors qu'il est complètement dans l'axe, et sur la dernière action, donc la refaute, il revoit en touche, et toute la période où ils sont sur notre ligne, là, qu'ils attaquent, deux fois il dit à Coulon, vous êtes hors-jeu, vous êtes hors-jeu. Coulon, à chaque fois, il recule. Il plaque pas une seule fois Coulon. Il plaque pas. Hein. Regardez, pendant toute la séquence, il plaque pas une fois Coulon. Et c'est lui qui prend un carton jaune. C'est un délire total. C'est un délire. Ce qu'il fait à Coulon là, pendant 5 minutes, c'est un délire.
Et ce qui est ouf aussi, c'est qu'à un moment donné, le public qui chouine, et l'arbitre qui dit « Ah oui, c'est vrai !» et il siffle.
Non, mais c'est
je sais plus exactement quand c'est, dans la première mi-temps.
Non, mais ça, des fautes sifflées extrêmement généreuses, il y en a eu plein. T'as un moment, c'est Olivon qui se fait prendre dans un ruck, il a 3 mecs qui lui tombent dessus.
Oui.
Olivon qui met les mains, qui tend bien les bras en l'air pour montrer je joue pas et qui commence à se tortiller pour sortir. On voit bien qu'il fait son possible. En général, quand il y a une attitude comme ça, l'arbitre considère que le joueur fait son possible. Et là, non, il a tendu le bras direct. Et ça a été ça tout le long, en fait. Il a donné des avantages systématiquement. Non, mais quand c'est comme
bien
ça.
Bien sûr, La Rochelle est restée à deux fautes sifflées pendant je ne sais pas combien de temps. Je crois que jusqu'à la 65e, ils n'ont que deux fautes contre eux.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est les gars, c'est un délire.
Du coup, on est forcément en colère, forcément frustré, parce que tout ce qu'on vient de dire, en fait, ben, ça montre qu'on a fait une bonne performance et qu'à chaque fois, des décisions, à des moments clés du match, nous mettent à l'envers une demi-heure à 14 contre La Rochelle, à l'extérieur. C'est trop compliqué. Mais au final, ça me fait de la peine parce que les mecs qui se sont filés et franchement incroyable. Domon, Twikouvou, ça a plaqué. Twikouvou d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Le mec, il a pas un CV flamboyant, mais il nous fait une saison, le gars. Quand même, en attaque, en défense, il est partout.
Ah, il est fabuleux.
Et au final, voilà, toutes ces performances-là, ben, elles sont pour rien parce qu'à l'arrivée, tu prends pas de points.
Non, mais elles sont pas pour rien.
Mais pas... ça n'y est pas totalement pour rien. Alors, juste un dernier point sur ça. J'espère quand même que le club va, d'une façon ou d'une autre, taper du poing sur la table parce que ça servira. Ça ne servira pas pour ce match qui est perdu. Ça servira pour la suite, pour les phases finales. Je veux dire, Mourad, il savait très bien le faire et je me souviens très bien que quand il mettait un gros scandale, en général, le match d'après, tu étais plutôt bien arbitré.
On est trop parce que silencieux.
Il faisait caca culotte. Là, il faut quand même que Mignoni dise quelque chose à un moment dans les médias et il faut qu'il fasse un courrier à la Ligue pour pousser un coup de gueule. J'ai bien compris que Bernard Lemaitre ne ferait pas du Mourad Boudjelal. Ok, il faut qu'il le fasse à sa façon. Mais là, il faut taper du poing sur la table, il faut se faire respecter, il faut être arbitré comme un grand club. Alors, on est arbitré comme un petit club.
Mais on a des Parissés, on a des Bastaros, on a des Mignoni, on a quand même des gars qui ont un certain pouvoir, quoi, on va dire, une certaine aura, quoi.
Mais tu vois, Aurélien, c'est pas qu'on était arbitré comme un petit club, c'est qu'on était arbitré comme il y a Toulon il y a 10 ans. Voilà, Canal+ nous chie dans les bottes, les arbitres nous chient dans les bottes, c'est bien, ça veut dire qu'on redevient un grand club, justement. Voilà, parce qu'il y a ces derniers temps, il n'y en avait pas trop de problèmes d'arbitrage, on s'en foutait, on n'était pas bon.
On faisait pas peur, peut-être. En tout cas, je note un truc quand même, ça rejoint un peu ce que vous disiez depuis le début, c'est qu'on a peut-être perdu ce match, mais je trouve qu'on l'a gagné quand même psychologiquement. Parce que là où je pense qu'aujourd'hui, t'es Rochelet, je pense que tu fais pas le malin. Parce que vois l'équipe qu'on a alignée, tu te dis, putain, mais on recroise cette équipe avec la grosse armada en quart, ça va pas être la même, on va pas rigoler. Hein.
Ils ont un boulard quand même, la Rochelle, ils vont quand même faire les malins.
Ouais, ils vont faire les malins
par contre,
un peu. Ouais.
Ce qui est dommage, juste petite parenthèse
ils ont
sur
ce résultat. Ils n'ont pas trop fait les malins hier soir.
On n'a pas trop parlé du choix d'aller en touche ou de taper pour le match nul.
Ouais.
Indépendamment du résultat, du score, tout ça, ce qui est dommage, c'est pour le classement, à l'arrivée, comme ça va se jouer à peu, si on a égalité avec La Rochelle, ils seront devant nous au goal average particulier.
Non, mais c'est surtout qu'en nombre de points, tu leur enlèves deux points. Tu leur enlèves deux points, t'en prends deux. Ça change toute la donne, hein. C'est,
oui,
en
mais...
termes de goal average.
Moi, sur les touches, je trouve qu'on a eu raison de la première.
La première, elle est bonne.
Enfin, la première pénalité. Je pense que c'était vraiment le jeu parce qu'on était en souffrance. On n'arrêtait pas de plaquer. Ça faisait une demi-heure qu'on était en défense, pratiquement. Là, c'est la première balle qu'on a d'attaque, etc.
Après, c'est pas de bol.
Il fallait qu'on tue un petit peu les minutes.
T'es sur leur ligne d'essai, c'est pas de bol, quoi.
Non, mais après c'est une situation.
Domon se l'a fait arracher, tu vois, c'est pas de bol.
C'est tout le fois qui se l'a fait arracher. Mais en fait, on fait le même choix que contre Toulouse, en fait. À Toulouse, il y a la semaine dernière, on était dans la même situation. C'est-à-dire qu'il fallait tuer 4-5 minutes et qu'on avait cette pénalité à jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On va en touche, mais sauf qu'à ce moment-là, on est à plus 1 contre Toulouse. Donc, il faut tuer le temps. Le chrono, il est avec nous. Donc, tu restes chez eux et c'est OK. Sauf que là, tu as à moins 3. Donc, la situation, elle ne peut pas être gérée exactement de la même façon. Alors, je comprends, après, le rugby appartient aux joueurs. Ils font leur choix, ils se sentent forts. Ils se disent qu'ils vont faire un coup énorme et que ça peut être magnifique. Donc, après, moi, je respecte ça. Il n'y a pas de souci. Mais à l'arrivée, on fait exactement le même choix contre Toulouse. Et moi, je suis d'accord avec Alex. La première, tu la prends. Tu tentes ton coup. Tu tentes de le faire. Tu fais tourner un peu le chrono. On arrive à la 78e, je crois, et tout. C'est très bien. Ou la 76e, je ne sais plus. La deuxième, par contre, un peu de réflexion, je trouve que ça va vite. Ça se précipite un peu dans le choix aussi, peut-être. Mais bon, après, c'est leur choix. Et si ça marque, ce soir, on est tous comme des
dingues. Ouais, puis tu arrives, tu n'es pas forcément lucide. Tu es oxy en fin de match.
Ils
ont fait les beaux, on va les enfoncer. Voilà. Bah, c'est le choix. Après, ça, peu importe ce que je veux dire, mais c'est, au vu du classement, c'est dommage.
C'est vrai, bon, alors après,
c'est difficile.
Bon, pour terminer quand même sur ce match, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont particulièrement marqué quand même les uns et les autres, en bien ou en mal, mais plutôt en bien,
Domon,
à mon avis.
Domon en bien,
ouais, moi, j'allais
dire parce que pas facile de passer après Jaminé, ça fait 5 matchs qu'il joue pas. Il a fait des face-à-face avec Skelton.
Ouais.
Le mec, c'est 170 kilos lancé plein fer, tu prends une twin. Deux fois, et il est tombé, parce que quand tu plaques aux jambes, ben ça tombe. Il était là dans le jeu, il était dans les relances, le pied était bon. Plusieurs fois, il s'est levé pour aller chercher un mec. Si je ressors un joueur, enfin en tout cas, celui moi qui m'a épaté dans tout ça, c'est Domon. Après, il y en a plein d'autres, parce qu'encore une fois, la performance était belle. Mais s'il y en a un, Domon.
Ouais, moi,
ce qui est intéressant pour Domon, c'est que c'est un profil totalement différent comparé à Jaminé. Donc, ça peut nous donner un petit peu des options. Voilà, Jaminé, qui a un énorme coup de pied, on sait que c'est vraiment le point où il est un des meilleurs au monde là-dessus.
Et buteur très
faible. Et il relance aussi, je veux dire, il prend ses responsabilités, etc. Mais Domon, on sent vraiment beaucoup plus d'agilité, de vitesse, de vista et bien entendu moins de jeu au pied par contre, mais ça amène vraiment un style de jeu différent et complémentaire parce que ça donne des options un petit peu aux entraîneurs. Donc en plus, il s'échappe pas. J'aurais aimé le voir un petit peu plus cette saison, Mais bien sûr, quand on a eu Jaminet disponible avec les difficultés qu'on a eues pendant plusieurs mois, le mec, c'est un buteur, un buteur incroyable. Bon, c'est normal, mais voilà, c'est vraiment sur un jeune sur qui je pense qu'on peut compter pour le futur.
Non, mais il faut l'installer en rotation de Jaminet l'année prochaine, ce garçon. Bien c'est sûr. Une pépite. Voilà, c'est le genre de garçon. Oui. Tu vois, on se plaint souvent à Toulon, on se dit, on sort des avants, mais en ligne de trois quarts, ça fait un moment qu'on n'a pas sorti des mecs. Bon, bah là, Daumont, ça ressemble quand même à une énorme pépite, quoi. Ce gars clignote, en fait. Il clignote quand il est sur le terrain. On voit que lui par moment. Totalement. Vraiment. Hier soir, moi, j'avais toujours mis en doute un peu, j'avais des doutes sur sa capacité à défendre. Il y avait des matchs, là, dans les cinq qu'il a fait cette saison, j'avais trouvé par moment qu'il défendait pas très bien. Il y avait des situations où il s'était défoncé. Bon, là, hier, il loupe encore des plaquages. Mais quand tu plaques deux fois, tronchant avec Skelton, et que tu le prends aux chevilles et que le mec tombe, ouais, que Favre, pareil, devant la ligne, tu le fais tomber, tu te relèves, tu plaques Zamora qui part à l'essai. Thomas, là, en fin de match, pareil, qui perce, qui se retrouve devant Daumont, craque aux chevilles, tu tombes. Vraiment, le match de Daumont, ses relances, sa lecture des espaces, son sens du jeu, la vitesse, comme dit Alex, qui met tout en restant extrêmement propre. Mais ce garçon, mais
son seul quel problème, bonheur, il a un seul défaut, c'est que je crois qu'il ne peut jouer, si je dis pas de bêtises, que 15.
Et c'est comme un demi d'ouverture. C'est un demi d'ouverture de formation, lui.
De formation, ouais, mais je sais pas si
Toulon. Je vois l'ouverture, les matchs, les premiers trucs qu'il fait quand il est pris avec Colazo au tout début là, il est ciblé comme demi d'ouverture. Ouais. Mais bon, après,
quand il était rentré avec le jeune Duplessis là, mais
c'est à lui de progresser. Il a sûrement les qualités pour jouer aussi un peu ailier, un peu. Bon, j'imagine que c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais après, on a des ailiers de qualité.
On sent qu'il a beaucoup de trucs. Hein. Et là, en tout cas, il pue le rugby. Quoi. Déjà, ça, c'est déjà formidable.
Il a des appuis sur des petits espaces qui fait qu'à mon avis, il pourrait jouer à l'aile. Mais d'ailleurs, puisque vous parlez des ailiers, je trouve belle performance à souligner des deux ailiers quand même, que ce soit Twikuvu ou Vainicolo. Les deux. Alors Twikuvu, c'est vrai qu'on commence à s'habituer à la bonne surprise. Vainicolo, j'ai envie de dire, c'est sûrement son meilleur match de la saison. Il n'y a pas eu beaucoup en même temps.
Oui. Alors oui.
De toute façon, oui.
Oui. Après, il commence le match de façon un peu dégueulasse avec trois passes de merde en 15 minutes.
Ah oui. Ah,
15 minutes, il fait trois passes. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Pourquoi tu fais ça? Il nous fait deux travers à la Penaud aussi, qui fait que dans les stats, t'as l'impression qu'il a éliminé 8 mecs, mais il a pas avancé d'un mètre. Donc ça, après, bon, au niveau des stats, ça triche un peu. Mais ouais, par contre, après, en défense, il a été très bon. J'ai une idée, une image d'une défense sur le petit Zamora aussi, là où il le plaque au ballon, il le garde en l'air et on va récupérer en bout de ligne là-bas, on va récupérer le molle parce qu'il le garde en l'air et tout, il joue très bien le coup. Non, vraiment, Nicolo, et puis on sentait tout de suite qu'il avait du gaz. Alors il fait ses trois passes à la con, il a un peu too much, mais cette capacité aussi au bout de 15 minutes à se dire aussi sûrement, bon, j'ai fait trois passes de merde, on va arrêter un peu ça. Et on va se recentrer un peu, on va garder plus le ballon et je vais arrêter de faire des passes à la con. Eh ben, ça montre aussi qu'il a progressé sur ce plan-là. Mais il est sur le bon chemin, ça fait plaisir de le voir comme ça.
Son interception est bien sentie. Et puis après, pour moi, voilà, je le mets toujours pas forcément titulaire là demain sur une phase finale, mais non. Ça t'offre une solution de repli quand même qui sent un peu moins la catastrophe qu'il y a trois mois, quoi. Ça c'est intéressant.
Oui,
Et Twikuvu, comme on l'a dit, et Twikuvu de l'autre côté, qui lui a un petit peu le style totalement différent, où il est quand même super discipliné, il est là à presser sur tous les ballons, il plaque dur, il est dans les bons coups, notamment sur l'essai. Vraiment, c'est une.
Et puis en défense, quand il reprend au Boudéan à 5 mètres de la ligne, là, en première mi-temps, là, Boudéan, il part à l'essai. Il revient, mais comme un dingue. Puis, tu dis, comme il met de la vitesse. Puis moi, quand je vois un mec de chez nous mettre un raffut au visage, un Rochelet.
Ah, c'est beau ça.
Moi, ça me va très bien. Et quand il met un tubas de la mort à Noël, pareil, à la fin de la deuxième mi-temps, là, où il y a un ballon en l'air et tout, il lui met un tube.
Il reste là, gamin.
Non, mais c'est fabuleux, quoi. Mais franchement, moi, je l'adore à l'aile. Hein. Moi, je le préfère vraiment à l'aile. Je trouve que c'est là où on exploite le plus ses qualités. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est fort.
Tu vois, du coup, s'il y en a un qui s'est blessé au mauvais moment, ben c'est Dréan, pour le coup.
Ouais, ouais, bien sûr.
Après, il re-rentrera, je pense.
Et Smiley, parce qu'il
y a un très bon début de match. Je trouvais vraiment il y avait une connexion entre lui et Garbizzi. Moi, j'aime beaucoup Garbizzi et les deux ensemble, on sentait qu'ils parlent le même rugby.
C'était bien.
Et c'est quand même dommage qu'ils soit c'est, là, c'est vraiment pas de bol, bien sûr, ouais, avec son KO, soit les blessures. Il est en train un petit peu de rater les opportunités, parce qu'avec la blessure de Duncan, là, il
a quoi jouer. Une fois, c'est pas de chance, hein, il s'est blessé tout seul, hein, franchement, c'est vraiment pas de chance. Hein.
Ouais, ouais, mais tu vois, il y avait, pour l'arbitre, il s'est blessé tout seul, il y avait pas grand-chose.
Ouais, il a glissé.
C'est tapé la tête en
glissant. Ça va me tenir 10 jours, ça, les gars.
Mais il y avait...
J'espère qu'il va bien.
Il y avait une interview très intéressante de Smiley dans le Middle cette semaine où il parlait justement qu'il avait travaillé sur le côté mental pour prendre plus de place, pour être moins réservé. Parce qu'on voyait qu'il avait des éclairs de génie un peu par match. Il y avait des choses qu'il faisait, mais sur 80 minutes, ça manquait un peu de consistance, tu vois. Et là, on a l'impression que le gars se dit bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est vrai que comme dit Alex, il y avait beaucoup de bonnes connexions avec Garbizzi sur les 6 premières minutes, notamment un lancement de jeu qu'ils font où c'est lui qui est cherché par White et Garbizzi vient dans son dos. Le timing était bien, tout était vraiment. Bah, c'est dommage, quoi. On espère le revoir vite. Hein. Ouais. Surtout que Duncan est blessé aussi. Quoi.
C'était aberrant de laisser partir Tolofua en pleine saison, on l'a dit, et ce qui s'est passé hier l'a montré, hein, parce qu'on a été obligé de faire jouer Domon qui n'est pas encore prêt. Oui, pardon, Damon. Mais alors, par contre, Garbizzi, mais quelle connerie de Montpellier de le lâcher en pleine saison.
C'est complètement fou. C'est complètement fou.
C'est hallucinant. Le mec, il a 23-24 ans. Et il est en pleine force de l'âge. Il est excellent. Alors, certes, c'est pas Carbonel, hein, mais
c'est excellent, ce mec. C'est pas un Carbonel, c'est affreux. Je le trouve formidable, Garbizzi. Je le trouve formidable parce que je le trouve ballon en main. Il se passe toujours un truc. Moi, j'aime bien quand il porte le ballon à deux mains comme ça devant lui. Les mecs devant, les défenseurs savent pas s'il va partir à droite, à gauche. Il va passer à droite, à gauche. Il donne aucun indice jusqu'au dernier moment. C'est vraiment le signe de classe de joueur. Et en défense, mon Dieu, mais hier, Danti, je sais pas combien de fois il a essayé de le, il a tapé dedans. Il a pas bougé, quoi. Il a extrêmement bien défendu plusieurs fois Garbizzi, mais vraiment ce garçon est, c'est génial d'avoir ce garçon-là. Et à un moment donné, il y a une situation où il va donner à Domon, il regarde la situation, en première mi-temps, il regarde la situation, il voit qu'on est en sous-nombre. Et il fait une feinte, et il va gagner cette seconde-là, là, pour analyser un peu plus et pour savoir à qui il va la donner. Il la donne à Domon qui est plein de balles. C'est magnifique. Vraiment, je trouve ce garçon super. Et plus il va prendre de l'épaisseur dans notre jeu, plus il va être bien dans nos systèmes et plus on va se régaler.
Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les images qu'on a vues avant le match où c'est lui qui, lorsque les joueurs s'échauffent et qui se mettent en cercle, il y avait Garbizzi qui était au milieu et qui faisait le discours de motivation.
Exactement.
Et on le voyait, mais il était à balle, comme s'il était dans ce club depuis 10 ans. Quoi. C'était lui le capitaine et j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, j'adore les mecs qui ont du caractère, des joueurs de caractère, c'est ce qu'il nous faut à Toulon. Et là, je me suis dit, putain, je pense qu'on a trouvé vraiment un bon mec.
Mais c'est lui qui bouge les mecs aussi après le premier essai, hein. C'est lui qui dit allez c'est bon et tout machin, on continue tout après le premier essai de La Rochelle. Non vraiment je pense que là on a un type en plus qui arrive au MHR, il le trouvait un peu inconstant, un peu deux bons matchs et puis deux matchs moyens et tout, mais faut pas oublier que c'était encore un jeune joueur, hein. Là il arrive à 23 ans, il sort d'un tournoi destination exceptionnel.
Dans une équipe de merde
aussi. Il peut jouer premier centre.
Et il peut jouer premier centre
donc d'un point de vue tactique, ça te fait un 5-8e, jouer avec deux ouvreurs. C'est pas mal, c'est intéressant.
Bah là, quand
moi, je l'ai vu. J'ai vraiment fait attention.
T'as Duncan et Smiley blessé.
J'ai vraiment fait attention à sa défense. Et franchement, il glisse super bien en défense. Il est vraiment très intelligent. Il est très appliqué, très attentionné.
Ouais, c'est très discipliné.
Pas,
hein.
Il rate pas un placage.
Non, il rate pas.
Et après, au niveau de la passe, il a une timing de la passe, une vision. Alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques réglages à travailler avec ses coéquipiers.
Surtout avec Saint-Zel. On a senti qu'il était moins à l'aise avec Saint-Zel qu'avec Smiley. C'est clair.
Mais le timing, je crois qu'à un moment, il met une super passe à Twikuvu, juste dans l'intervalle. Il met des passes à l'intérieur aussi. Vraiment, je pense que c'est vraiment une super recrue. En plus, c'est un pied gauche qui complémente un petit peu ce qu'on a avec Jaminet. Je veux dire, un swap entre Tolofua et Garbizzi, mais on est gagnant à 100%, les gars. C'est une énorme recrue.
Un truc, parce qu'on met en avant beaucoup les arrières, alors que les avants ont fait un match exceptionnel avec beaucoup de plaquages, et c'est quand même eux qui ont tenu la baraque. dans ce match, c'est vrai que là on a mis en avant les arrières, mais il faut quand même souligner la grosse perf en défense de garçons comme Youyou, qu'on n'a pas vu beaucoup, dont on s'est aussi un peu moqué à Toulon pendant longtemps.
17 plaquages.
Et vraiment, Rebadge, il a été énorme sur toutes les défenses de Maul, où c'est lui qui a mis les mains sur le ballon, qui nous a sauvé 2-3 situations. Il a beaucoup plaqué. Gros, il a énormément plaqué. Alors, Gros, il y a 2-3 situations qui gâchent un peu le truc, où c'est lui qui manque un ou deux plaquages, où les mecs percent. Je pense à un truc sur Skelton. Bon, après, des mecs qui ont manqué des plaquages sur Skelton, ça arrivait à beaucoup de gens. Mais, ou Panverne aussi, il fait 3 fautes. Mais voilà, tous ces gars-là, tu vois, la Gahu, Coulon, putain, les mecs,
Ils ont formé qu'un. Mais tu vois, t'as pas forcément un mec qui a raté son match.
Non.
Tu as bien joué, t'étais là en défense, t'as fait des actions offensives et t'as perdu. Donc c'est pour ça que moi, j'arrive pas à me dire dans ma tête que j'ai perdu.
Non, mais comme je t'ai dit, on ressort vainqueur psychologique pour moi, parce qu'avec avec une équipe B, voire C même, comme le pensaient certains, t'as plus ou moins rivalisé avec l'équipe 1 de La Rochelle, donc ce qui est juste incroyable. Et je voudrais même dire, moi, un petit mot pour Setiano, qui, pareil, a été beaucoup critiqué. Et franchement, en mêlée, il a été impeccable.
Ouais.
Il n'a pas été sanctionné une seule fois. Et c'est quand même à noter, ce qui était un peu son point faible.
Mais il le sort vite. Il le sort dès la mi-temps. Peut-être qu'il s'est...
Parce que tu te dis que Gigashvili va te donner un ascendant de fou, ce qui n'est pas forcément le cas.
Non, c'était le projet. Hein, c'était le projet. Tu avais un banc quand même qui était costaud, on va dire. Hein, quand même,
Mais ils rentrent vite, hein, les mecs. Bon, ils rentrent à la mi-temps pour Giga, 48 pour les autres. Ils rentrent vite.
Parce qu'au final,
le banc a permis d'avoir de la consistance, alors que des fois, c'est l'inverse. Mais tu n'as pas eu le surplus attendu par le banc. Mais tu as eu de la consistance, du coup, sur l'ensemble du match. Donc, c'était quand même... La stratégie était bonne. C'est juste pas de cul. Bravo, les mecs. S'ils nous écoutent, bravo.
Bravo, les gars.
Ah, bravo, c'est clair. Bon, on a fait un petit peu le tour. Et puis, tant qu'on est, du coup, sur le sujet de La Rochelle, il y a une heure à peu près, il y a une info qui est tombée. Gérald, apparemment, à la radio, où on suivrait de très près, on discuterait avec un joueur rochelais, un petit nouveau, je crois.
Ah ouais, alors, l'info vient d'Alexandre Priam, qui est un journaliste de Sud Radio, supporter de La Rochelle, très proche de tout ce qui se passe dans le club de La Rochelle, qui a beaucoup d'informations là-dessus, qui a lancé dans l'émission, l'excellente émission Le Petit Bureau, une émission de rugby, que Toulon regardait énormément du côté de La Rochelle pour recruter l'année prochaine. Et l'année d'après, et il a cité un nom.
Mathieu Tanguy.
Pas Mathieu Tanguy, mais pratiquement presque. Enfin, tu prends Mathieu Tanguy, tu multiplies par 3 et ça te donne Will Skelton à peu près.
Ah, et tu mets du talent aussi en plus.
Et tu mets pas mal de talent aussi. Donc voilà, Will Skelton, il lui reste une année de contrat, donc on est en train de discuter visiblement sur racheter cette année de contrat, ou alors peut-être pour l'année d'après. Mais en tout cas, on est en discussion avec Will Skelton et ce n'est pas le seul joueur de La Rochelle qui est ciblé par Toulon cette année. Donc là où.
Après, Will Skelton.
145 kilos, le mec.
Ouais, mais il n'arrive pas à battre Daumont, donc bof.
C'est pas faux. C'est pas... Vu comme ça, c'est pas faux. Il roule sur tout le monde, Will Skelton, sauf sur Daumont.
Tu sais, Gérald, quand je regardais ce match, je me suis fait la réflexion que pour moi, La Rochelle arrivait sur une fin de cycle.
Oui.
Je trouve que là, ils font cette erreur. Ce que tu es obligé de faire, c'est qu'à un moment, un groupe qui a gagné énormément, tu lui laisses forcément toujours sa chance derrière. Et puis, ça baisse. Et franchement, même leur coach, la semaine dernière dans la presse, a commencé à dire « Oui, je ne serais pas contre devenir sélectionneur de l'équipe de France ou peut-être de l'Irlande. » Tu sens que tout le monde commence à prendre ses dispositions là.
Oui, c'est vrai.
Et il va y avoir un nouveau cycle à La Rochelle.
C'est vrai, il y a un nouveau cycle qui s'annonce parce qu'ils ont un problème aussi de salary cap. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient arrivés à La Rochelle avec de Pro D2 ou qui n'étaient pas très connus. Et donc, à un moment donné, ces gars-là, quand ils sont arrivés à leur fin de contrat, il a fallu les redoubler. Et donc là, on est arrivé sur des salaires un peu conséquents. C'est-à-dire que le salaire de Antonio il y a 4 ans, c'est pas le même demain que maintenant. Et Aldrit, et puis tous les autres. Donc ils ont un petit problème.
Et apparemment, je ne sais pas si vous avez vu, Botia apparemment a fait 200 matchs. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si Canal vous l'a dit.
J'ai pas vu. Mais du coup, voilà, tous ces gars-là, il a fallu les payer pour les garder. Ils se sont séparés de quelques gars qui étaient quand même historiques et ils misent un peu plus sur... ils espèrent qu'il y ait pas mal de joueurs qui sortent. Là, on a vu beaucoup de jeunes hein, ces derniers temps qui sortent de La Rochelle. Ils ne sont pas encore tous prêts, mais ils les mettent quand même sur le terrain. Panverne est prêt, mais il y en a d'autres. Hier, le petit Zamora qui est rentré, lui, il n'est pas prêt à jouer en top 14, on est bien d'accord. Hein. Il est rentré, il a été catastrophique. Mais catastrophique pendant toute la deuxième mi-temps. Des ballons en l'air, des trucs, des schistères à la con, des choix de merde. Vraiment, ce garçon, il nous a facilité la vie. On le remercie énormément. Mais ils mettent énormément de jeunes parce qu'il va falloir aussi qu'ils fassent encore des choix. Voilà, les choix ne sont pas terminés, il va falloir encore en faire. Donc, il y a des garçons qui vont quitter ce club. Et peut-être que Lewis Skelton en fait partie.
Après, nous, on est les spécialistes d'acheter les vieilles gloires à prix fort qui sont sur fatigué, la pente descendante. Donc,
bon. Bon, Lewis Skelton, hier soir, je l'ai pas trouvé, cramé.
Non,
hein.
T'es
pas à l'abri qu'on Eric Crack au niveau des gifs. T'es pas à l'abri qu'on fasse partir Vainicolo et qu'on le remplace par un Teddy Thomas.
Hein. Quoi? Écoute, qui te met des mecs.
Tu me diras. Ouais. Tu perds pas spécialement au change. Hein,
ça c'est plus récent. Il y a aucun qui plaque. Au moins, t'es tranquille, t'es sur le même registre, on sera pas choqué. Hein. Au moins, c'est les mêmes. T'es tranquille. Hein.
Pourquoi pas.
Il y en a un qui est gif.
Ouais. Voilà, c'est ça, l'avantage, c'est qu'il est gif. Ouais. Super.
Bon, écoutez, parlons un petit peu de la suite. Maintenant, la suite, donc là, on va avoir un week-end de repos. Et puis ensuite, on va donc recevoir le Loup. Le Loup qui est un peu entre deux eaux, hein. Ils sont ils peuvent plus vraiment se qualifier pour le top 6, ils peuvent pas trop descendre. Et je sais pas si on peut dire qu'ils sont déjà en roue libre, Bastien, là, mais ils sont un peu entre deux.
Le Loup, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Donc, on va dire, il y a une bataille pour le maintien entre Clermont, Lyon, Bayonne, Montpellier. Lyon vient chez nous. J'espère pour nous qu'ils vont pas marquer de points. Derrière, ils reçoivent le Racing. Et derrière, le Loup va jouer à Montpellier et reçoit Toulouse. Leur calendrier est assez costaud. Et si j'étais eux, j'essaierais de blinder à la maison. Parce que, pareil, avec deux victoires, c'est même pas certain qu'ils arrivent à s'en sortir, vu qu'on va pas faire dérouler toutes les journées. Mais j'ai vu dans la boule de cristal que ça sent pas bon pour Lyon.
Tu vas nous en parler après, de la boule de cristal, parce qu'on va parler des projections sur la fin de saison. Mais...
Voilà, en tout cas, le Loup, je les vois pas essayer de venir faire quelque chose chez nous, même s'ils sont en mode maintien, même si tous les matchs vont compter, on commence à refaire peur. Et la semaine d'après, après nous, ils jouent le Racing à la maison.
Ouais.
Donc, s'ils laissent trop de plumes chez nous, ça va puer chez eux et ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points chez eux.
Aller à Montpellier, ça va être un match.
Bonne chance.
Montpellier, les deux dernières journées, jouent le maintien quasiment, font des pré-barrages. Ils reçoivent Lyon et ils iront à Clermont.
Oh là là là.
Ah oui.
Le Loup, c'est assez marrant parce qu'ils sont à 8 points du top 6 et à 8 points du MHR, qui est barragiste. Ils sont à 8 points des deux trucs. Alors qu'ils sont, juste deux places devant le MHR. Mais c'est une équipe qui est extrêmement faible à l'extérieur. Ils ont pris qu'un seul point depuis le début du championnat à l'extérieur. Un seul point. Voilà. Je ne sais pas si donc, on se rend compte. Les mecs ont fait 10 matchs à l'extérieur, ils ont pris un point. C'est quand même
du
fou.
Du coup, prends ça en considération. Ils ne gagnent pas à l'extérieur. Et les deux équipes qui reçoivent, c'est Racing et Toulouse.
Ouais. Ils ont fait 11 matchs à l'extérieur et il y a 7 matchs où l'équipe a pris des points de bonus offensifs contre eux. C'est vraiment une équipe
bizarre. Venir,
Et là, nous, on a fait reposer des cadres, comme on a dit, Abadi, Villiers, tout ça, ils sont reposés, même Olivon,
ils ont fait un match en 6 semaines, c'est plus du repos, hein. C'est une préparation physique en fait.
Ah, mais c'est bien, on les met dans les glaçons, là, c'est bien.
Ils vont arriver plein fer pour le Loup, derrière Oyonnax, clairement, ces 3 matchs sont essentiels, mais là, le match du Loup, à part viser une victoire bonifiée, enfin, on est obligé.
On est obligé de viser ça. Après, ça peut ne pas arriver. Le Loup, chez eux, ils cartonnent tout le monde. Et à l'extérieur, ils sont cartonnés par tout le monde. Voilà la saison du Loup. C'est comme ça depuis le début de saison. Comme je te disais tout à l'heure, ils ont pris un point à l'extérieur. Donc, ils en ont pris 50 à Perpignan le match d'avant. Et là, ils en ont mis 38 contre Pau. Cette équipe est bipolaire, quoi. C'est une équipe bipolaire. Donc, ils viennent chez nous.
J'aimerais pas être supporter du Loup, ce soir.
Ils viennent chez nous. On doit les découper. On doit être dans l'idée de prendre 5 points. Voilà, c'est l'objectif. Et il y a 7 équipes qui ont pris le point de bonus offensif chez eux contre le Loup. Pourquoi pas nous, en fait ? Avec la dynamique du moment, il n'y a aucune raison de se dire qu'on ne va pas y arriver.
Au vu des qualifications pour les phases finales, on est obligé.
Ouais.
Très bien, ben justement, comme vous en parlez, on va passer à ce sujet-là. On va passer tout de suite au gros sujet, le débat. Toulon va-t-il accrocher le top 6, voire même le top 4 ? Et Sébastien qui va nous en parler.
C'est les pronos de Bastien. Oh, le mec qui est gentil, qui est bien. C'est les pronos de Bastien.
On va sortir un single là-dessus.
Le single des causeries, ça c'est le track bisutage de Bastien, donc je l'accepte, il n'y a pas de problème.
Moi j'achète en tout cas ça.
Mais vous parlez sur le piano, vous déconnez, laissez le piano un peu.
Tu peux m'enlever le piano de l'angoisse derrière. Donc, pour essayer d'être le plus clair possible, on peut considérer que Paris et Toulouse sont qualifiés, seront dans les phases finales. On ne joue pas avec eux. Nous, par contre, on joue avec Perpignan, La Rochelle, l'UBB et le Racing. On part sur l'idée la pire, c'est que tout le monde gagne tout. Sauf que La Rochelle rencontre l'UBB, l'UBB rencontre aussi l'USAP et le Racing rencontre aussi La Rochelle. Donc, au jeu des confrontations directes,
laisser des points. Okay.
Il y a forcément des points qui vont se perdre en route. Admettons, malgré tout, avec tout ça, que La Rochelle, l'UBB et le Racing prennent 15 points. Ça voudrait dire que nous, on doit en gagner 17 pour être dans les phases finales. Donc, 3 bonus offensifs, un match nul. Bon, maintenant, je vais vous rassurer, La Rochelle se déplace à Toulouse. Et je ne les vois pas gagner avec le bonus offensif à Toulouse. Donc ça fait ça deux points en moins pour eux. Pareil, l'UBB se déplace à Paris. Je ne les vois pas gagner avec le bonus offensif à Paris. Donc compte tenu de ça, de ces projections-là, et je ne sais pas non plus, sorti du chapeau.
C'est les pronos de Bastien.
Exactement. Et ben, il faudrait, pour être dans le top 6, que Toulon prenne 13 points minimum. Et pour être dans le top 4, recevoir un barrage à domicile, 15 points. Donc 15 points, c'est un bonus offensif contre Loup. Un bonus offensif à Oyonnax, qui sera vraiment pas simple, et un bonus offensif contre Clermont.
Ou alors un bonus défensif à Paris.
Voilà, mais dans mon choix de faire 3 bonus offensifs, 3 gros matchs, ça nous permettrait derrière à Paris d'envoyer une équipe de 23 gifs pour le quota gif, de laisser reposer les mecs avant le quart de finale qui arrivera une semaine après cette dernière journée.
Si voilà. On est bon, donc on peut même se permettre d'envoyer une équipe un peu B, entre guillemets, à Paris. Et d'être déjà un peu serein. Quoi. Donc,
et j'ai presque envie de vous dire que si on fait 4 bonus offensifs, on peut être dans les deux premiers.
Il y a un scénario où tu vas à Paris sur le dernier match et si tu gagnes, tu peux passer devant eux selon les résultats qu'ils vont faire. Ils n'ont pas des matchs faciles Paris.
Exact.
Tu vas à Paris en te disant si on gagne, on fait deuxième. Alors ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas pour une simple bonne raison. C'est que Paris, à l'extérieur, ils sont terribles. Et cette équipe, elle est en sur-régime, comme a dit tout à l'heure Bastien, parce qu'elle est dans les stats. Tu as l'impression qu'elle est relégable. Et quand tu regardes le classement, ils sont premiers ou deuxièmes. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais nous, il va falloir qu'on fasse des choix aussi. C'est qu'en fait, là, en termes de GIF, moi, j'ai regardé où est-ce qu'on en était. Sur 352 GIF attendus, on en est sur 370... sur 352 gifs attendus, on en utilise 370. Ça veut dire que on a 18 gifs d'avance sur les compos.
C'est les stats de Gérald.
Ouais, exactement. Sauf que sur les 3 derniers matchs, par exemple, les 3 victoires qu'on a eues, je ne compte pas celle de La Rochelle, on tourne à peu près à 13-12, voire même seulement 11 gifs sur la feuille de match. C'est-à-dire qu'on a plus de non-gifs que de gifs sur la feuille de match. Quand tu mets toutes tes forces sur un terrain pour gagner un match contre Toulouse, tu as 11 gifs seulement. Ça veut dire que sur une moyenne où tu dois être à 16, tu es à 11. Quand tu en as 18 d'avance, regarde en combien de matchs tu grappilles tous tes gifs d'avance. En 3-4 matchs, c'est terminé. Ça veut dire qu'après, quand tu vas jouer tes quarts de finale ou éventuellement ta demi-finale ou ta finale, il va falloir que tu aies que 7 gifs gifs sur la feuille de match. Et ça, je nous souhaite une bonne chance. Ouais.
Dans la boule de cristal, j'avais les résultats des phases finales. Donc, en barrage, on reçoit l'UBB, on gagne. On joue contre Paris en demi, on gagne. Et en finale, contre Toulouse au Vélodrome, avec quelques faux témoins, ça peut gagner.
Ouais, donc il va falloir... Tu me l'aggraves. Je fais un tableau, moi.
Enregistré.
Non, mais ça veut dire que si on veut garder notre quota GIF et pas partir en Suède, de toute façon, il va falloir faire un choix. Ça veut dire que, en espérant qu'on fasse le plein là, à Paris... T'envoies une équipe de presque 100% GIF, quoi. T'as pas le choix. Même s'il y a des postes où c'est compliqué, parce qu'en plus des droits, tu vas pas pouvoir le faire. Tu mets qui? Tu mets Setiano et sur le banc, tu mets qui si tu veux mettre que des GIF?
Non, mais 100%, tu pourras pas. Prendre de l'avance.
Mitchelliser, il est non-GIF cette année. Ben ouais. Okay. Mitchelliser, il est non-GIF cette année. En deuxième ligne, Brian Riban, c'est compliqué.
Mais devant.
À droite.
Ouais, à droite. Ouais. Il va en roue libre.
Non, mais après, on peut toujours.
Et Gérald, dans tes stats, t'as pris en compte le match d'hier. Hein, parce qu'on en a
oui, bien sûr, j'ai pris en compte le match d'hier. Hier, tu vois, t'as l'impression que tu fais tourner et que tu mets une équipe de GIF. Mais t'as quand même 6 non-GIFs sur la feuille de match. Et t'en faut 7. Ouais. En fait, tu gagnes pas énormément de marge. C'est parce que il y a des postes où t'es vraiment en difficulté sans les GIFs. Sans les non-gifs, après, t'es vraiment en difficulté sans les non-gifs. La charnière, comment tu fais une composition quand tu mets pas White, Garbizzi et Bigard sur la feuille de match?
Après, Gérald, si tu veux, ça pour moi, c'est un autre souci. Aujourd'hui, nous, ça fait tellement longtemps qu'on est sevré de phase finale que si à la fin, on n'est pas dans les clous gifs, je m'en tape. Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous de payer une amende, je m'en fous d'avoir des points en moins l'année prochaine. Là, on veut des phases finales. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas eu.
Non, mais le problème, ça sera, c'est pas grave. Le problème, ça sera pas les phases finales. Le problème, ça sera après. En fait, si tu fais pas un match où tu dis, allez, on envoie que des gifs, tu vas être coincé pour faire ta sélection de joueurs non gifs à mettre sur la feuille de match quand va arriver les demi-finales, par exemple. Parce que si on continue comme ça, en demi-finale, t'es à 16. Donc après, tu vas être emmerdé.
Non, mais personne ne l'oblige. On n'est pas obligé. C'est à la fin, à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On sera hors clou, eh bien on sera hors clou. C'est pas grave.
Après, dans notre malheur, ça, je vais finir là-dessus, on n'est pas les seuls. Perpignan, c'est très très compliqué. Eux aussi, il va falloir qu'ils choisissent. Il va falloir qu'ils mettent des compositions à 7 non-gifs seulement. Et leurs compositions, elles sont très au-dessus de ça actuellement. Le MHR, eux, ils sont carrément en dessous du quota. Le Loup, pareil, il va falloir aussi qu'ils choisissent. Et tout à l'heure, tu disais, tu vois, le Loup, il y a des matchs où ils vont... Ben, je pense que les matchs à l'extérieur, comme Clermont aussi dans cette situation-là, le Loup et Clermont sont des équipes qu'on va jouer chez nous. Je ne suis pas persuadé qu'ils arrivent avec leur grosse équipe et avec tous leurs non-gifs sur la feuille de match.
Intéressant. Ah bon. Donc bon, c'est bien, ça pousse quand même plutôt à l'optimisme, même si rien n'est fait, parce que il y a trois mois, on se voyait jouer le match de barrage quand même. Hein. Non, et Montpellier, on parlait d'eux pour jouer le top 6, et puis le match Toulon-Montpellier a tout changé, et a réinversé complètement les trajectoires des deux équipes.
Exactement, ouais, c'est vrai.
Donc, non, mais c'est pour ça, après, on parle toujours à l'instant T, hein. S'il faut, on repart dans le travers, on ne gagne pas un match. Bon, au moins, on sera maintenu. Voilà, donc c'est quelque chose à retenir. 13 points pour le top 6, 15 pour le top 4, a priori. Ouais, sachant que si on est égalité avec UBB ou La Rochelle, on sera derrière eux au goal average particulier.
Ouais, ce qui risque peut-être de nous, au dernier moment, de nous faire passer 5e ou 6e, quoi. Bon.
Ouais, pas plus.
On prend pas quand plus, même. Hein.
Parfait. Eh ben merci Bastien, c'était très clair. Et puis on va terminer par un dernier sujet. C'est qui n'était pas forcément prévu, mais en fait ça a été rendu public aujourd'hui, enfin ou cette semaine, donc forcément on s'est penché dessus. C'est la Cour régionale des comptes qui a fait un audit du Rugby Club Toulonnais qui date un petit peu de l'année dernière. Hein, ça, il a été rendu, enfin il a d'abord été donné au Rugby Club Toulonnais et aux personnes concernées l'année dernière, et puis il a été rendu public il y a quelques jours. Et donc on l'a lu, on l'a analysé. Il y a quand même des éléments intéressants à relever. Alors pas de grosses surprises si vous écoutez régulièrement les causeries de la RAD, parce que finalement, ce que la Cour des comptes met comme point d'alerte, c'est exactement les points d'alerte que l'on mettait sur la gestion de Bernard Lemaître. Et on va commencer par le point le plus important, hein, c'est que finalement, la Cour des comptes cible la dépendance, l'ultra-dépendance qui a été créée par Bernard Lemaître d'une façon presque, on va dire, involontaire. Mais c'est que finalement, en investissant massivement comme il l'a fait et en créant beaucoup de charges pour essayer de relancer le club, d'investir, de faire de l'immobilier, etc., mais finalement, il a créé une situation aujourd'hui de déséquilibre complet et qui fait que si demain, Bernard Lemaître n'est plus là, c'est la catastrophe. Alors, je pense que vous l'avez lu, je ne sais pas lequel de vous veut réagir un peu dessus.
Ouais, mais c'est exactement ça. C'est vrai qu'on en avait nous parlé longuement, mais... si on donne des chiffres, hein, l'argent qui, si on fait simple, hein, pour que tout le monde comprenne bien et qu'on ne donne pas des termes trop techniques, l'argent qui rentre aujourd'hui représente un peu moins de 30 millions et les charges, c'est-à-dire l'argent qui sort du club, c'est 36 millions. Ça, c'est les résultats sur 2021-2022. On a eu des balances à moins 12 millions, à moins 7 millions. Ça veut dire que régulièrement, eh ben, notre président, il met 7, 8, 9, 10 millions dans le club pour qu'on soit, pour qu'on puisse payer nos charges et que le club continue de vivre. C'est jamais une bonne situation. Voilà. C'est jamais une bonne situation qu'un club doit sa survie chaque année ou alors l'équilibre de ses comptes à un homme. C'est jamais une bonne situation.
Et du coup, les leviers, ce serait quoi le levier? Remplir le stade, en fait, aujourd'hui, remporter des coupes, ouais, parce que ça passe par le
compte. Les dépenses aussi. Hein.
Oui. En fait, la Cour des comptes, quand tu lis le truc, ils te disent que les dépenses, selon eux, bon, ça bougera pas. Ça va être compliqué de faire moins parce que, bon, ils ont regardé la marge salariale, les mecs qui travaillent au club, le sportif et tout. Bon, voilà, on n'est pas dans des dépenses incroyables. Eux, ils voient deux choses. Un, on a eu une baisse terrible des recettes. Donc, eux, ils disent que, il faut gagner. Si tu gagnes, tu remplis ton stade. Si tu remplis ton stade, il va y avoir plus de recettes et en billetterie et après les maillots et tout ça. Donc là, on a une vraie baisse là-dessus. Et ce rapport-là a été fait en 2021-2022. Donc le Clubhouse n'était pas encore actif. Et ils espèrent aussi, pour eux, il y a une possibilité de rentrer d'argent avec le Clubhouse, ce qui est pour l'instant pas certain, parce que si le maître nous a dit à la réunion avec les supporters qu'il était déçu, que pour l'instant, en termes de charges, on n'arrivait pas à monter, et puis les produits, bon, il fallait aller voir l'année prochaine, ça veut dire que peut-être ce facteur-là ne fonctionne pas terriblement. Le principal truc, coup, c'est le résultat sportif.
Du coup, offrir des places, payer des danseuses et tout, c'est pas terrible alors.
Ouais, mais c'est bah, pas là, ça qui crée
là,
ton
ça,
truc.
Là, ça c'est particulièrement... Non, c'est mais par contre, ça c'est quand même particulièrement vu. Non, les places offertes, par contre, ouais, c'est ressorti dans les tableaux. C'est que là, quand on regardait les tableaux, alors j'ai plus les chiffres là exactement sous les yeux, mais le ratio était assez énorme. Hein, c'est-à-dire que sur 2021-2022, tu es globalement à deux places achetées pour une place offerte.
C'est ça.
Donc c'est assez incroyable. Ce qui, le ratio était complètement différent. Hein. Il y a 4-5 ans en arrière, on était plutôt sur 4-5 places, 5 places achetées pour une offerte. Donc, ça veut dire que là, globalement, 30% globalement de ce que tu vends, tu le redonnes en place gratuite. Donc, tu remplis ton stade, tu remplis un peu parfois ton vélodrome d'une façon artificielle. Quoi.
Ouais, tu crées pas de l'engouement. Enfin, c'est de l'engouement factice.
C'est ce qui s'est passé pour remplir le vélodrome l'autre fois, c'est-à-dire que le vélodrome, on n'arrivait pas à le remplir. Donc à un moment, les partenaires ont reçu des centaines de places. On a des partenaires, plein de partenaires qui ont dit « j'ai reçu 500 places alors que je suis un petit partenaire », donc imaginez les autres. Et puis finalement, ça s'est remis à gagner. Et puis au dernier moment, sur les deux dernières semaines, on a rouvert des tribunes et on a enfin commencé à vendre des places. Mais au final, sur les, je ne sais pas combien on en a vendu, 60 000 personnes, t'as probablement un tiers d'invités, quoi, tu vois, ou un quart d'invités. Donc, tu fais pas rentrer tant d'argent que ça et à bout d'un moment, ça se voit dans les comptes.
Oui, complètement.
L'échec de la stratégie sportive depuis 5 ans qui commence à être extrêmement lourde pour le club. Heureusement,
ça, avec des recrutements douteux, parce que c'est... Ouais, alors, c'est pas les principales dépenses, mais c'est des dépenses, du coup, que tu peux maîtriser, celles-ci, en tout cas. Enfin, tu peux toutes les maîtriser, mais celles-ci, c'est toi qui décides qui tu recrutes et quel investissement tu fais.
Colby, voilà. 1 million, Edzebes à 1 million, Bigard à 1 million, ou je ne sais pas combien.
Ouais, mais ouais, vous savez, les gars, c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, il n'est pas là aujourd'hui. Parce que ça fait partie de la masse salariale. La masse salariale, elle est encadrée pour tout le monde. Donc, de toute façon, on ne dépasse pas les 11 millions comme tous les clubs. Ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est toutes les dépenses qu'on a à côté. Là, on investit. Alors, il y a aussi de l'investissement, hein, parce qu'on vient d'investir 13 millions dans un campus et 18 millions dans un clubhouse. Donc, forcément, ça, pour les faire marcher, bah, tu crées de la dépense parce qu'il faut les faire fonctionner, ces gros machins-là. Tu t'emploies des gens. Il y a des prêts.
Le campus, c'est estimé à 1 million par an pour faire tourner le campus.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas les coûts de temps en temps à prendre des mecs à 1 million là et 1 million là. C'est pas ça qui fait qu'on a un trou de 6, 7 millions tous les ans. Ce qui fait
c'est quand tu dépenses autant que tu te trompes de joueurs et que tu as une stratégie sportive défaillante, bah tu n'as pas tous les revenus et tous les sponsors à côté. C'est la stratégie sportive a été extrêmement défaillante sur les 5 dernières années.
Ouais, ouais, mais ça veut dire aussi que tes supporters ils viennent plus au stade aussi. Hein.
Ah, oui, tout est lié parce que du coup tu joues mal, t'as des joueurs qui te font pas bander, exactement, tu viens pas au stade, c'est un cercle vicieux. Après, est-ce que si tu gagnes, que tu te remets à gagner, est-ce que ça va recréer de l'engouement, est-ce que tu vas réussir à équilibrer les comptes ou autre? Pas forcément non plus, parce qu'il y a l'air d'avoir des dépenses qui sont systémiques dans ce que vous dites là. J'ai pas eu le rapport, mais c'est ça qui est problématique.
Et comme l'avait dit Mourad Boudjelal très justement, il avait dit que le maître était surtout en train de créer des dépenses et il avait vraiment insisté là-dessus. Tout le système économique depuis que le président Le Maître est là n'est pas basé sur un équilibre, et justement il est en train de le payer de sa poche chaque année.
Le vrai problème de ça, c'est que derrière, soit on compte encore sur Monsieur Le Maître pendant plusieurs années, soit il faut qu'il y ait un mécène qui nous reprenne.
Mais ça ne réglera pas le problème. En fait, ce que dit la Cour des comptes, Et les termes employés sont très forts et ça reprend ce qu'on analyse depuis des mois et qui, encore une fois, c'est pas contre Bernard Lemaitre, c'est simplement un point d'alerte en disant « attention, on est en risque ». Et c'est ce qu'ils disent. Là, je cite le rapport, ils disent « la santé financière de la SASP est préoccupante ». La santé financière de la société est préoccupante, d'autant plus que les droits de diffusion télévisuelle sont déjà élevés, qu'ils n'auront pas beaucoup augmenté dans les années à venir, puisqu'ils ont été récemment renégociés et conclus pour une période allant de 2023 à 2027. Ils disent ensuite « l'augmentation des montants financiers perçus au titre des partenariats est aléatoire ». Donc ça aussi, on voit bien que ça fluctue d'une année sur l'autre. Et puis, ils terminent globalement en disant « la situation financière de la SASP-RCT appelle à la plus grande vigilance. Les charges d'exploitation sont supérieures aux ressources depuis la saison 2016-2017 en raison de résultats sportifs moins favorables qui ont généré une baisse des recettes, de produits dérivés, de la billetterie, etc. » Voilà. Donc en fait, ils disent clairement à un moment que... sauf à ce que le club retrouve des résultats sportifs aussi victorieux qu'au cours des précédentes années, pour la Cour des comptes, on n'arrivera pas à inverser la tendance.
Et que le clubhouse, il cartonne et que ce soit plein tout le temps et que ça fasse de la rentrée d'argent énorme, ce qui est pour l'instant pas le cas. Mais
perso, j'ai acheté le maillot, j'ai acheté le pull et une casquette. Je suis désolé, moi je fais un maximum, les gars.
Achète tes claquettes. Alex,
c'est bien. Le club te remercie. Non, mais ça veut dire aussi que la stratégie pour remplir le stade ne fonctionne pas aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour du stade qui ne nous plaise pas énormément parce qu'on a l'impression qu'on perd Mayol, ne remplit pas Mayol. Et ça le vide.
Oui, alors, non, mais ils ont essayé plein de trucs.
On peut parler du sportif, mais vous avez raison, on peut parler du sportif, le fait que, oui, on est moins, on ne fait pas top 6, mais on n'est pas non plus catastrophique, je veux dire. Le club ne vient plus, je veux dire, on ne s'est pas battu pendant 6 ans pour ne pas descendre. Tu vois, on est souvent,
peut-être que tu as plus de monde qui vient du coup. Que le ventre mou.
Ouais, mais à 3 journées de la fin, souvent, tu vois, ces 2 dernières années, on a fait des remontées incroyables et ça fait des engouements, tu vois, par exemple.
Mais ouais, c'est le printemps.
Mais on n'a pas rempli le stade, en fait. On remplit pas le stade. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'on remplit, on c'est cette stratégie de vouloir faire du stade et d'une rencontre de rugby une grande kermesse, c'est un échec. Voilà, et aujourd'hui, c'est un échec.
Oui, mais ça, ils ont essayé plein de leviers pour faire entrer de l'argent, les NFT, tout ça. Et ça ne marche pas. Après, ils ont essayé.
Alors, ce que relève aussi la Cour des comptes, c'est que c'est une bonne idée sur le papier de faire un clubhouse pour générer des revenus. Mais attention, les terrains ne nous appartiennent pas. Là aussi, je vais citer le rapport. Si la volonté du club de disposer de structures pérennes apparaît de bonne gestion, la chambre relève cependant un risque supporté par le club lié à l'édification du campus RCT et de 2 bâtiments, clubhouse, etc., sur des parcelles appartenant à la ville de Toulon et seulement mises à disposition par des autorisations consenties à titre précaire et révocable pour une durée de 20 ans pour l'édifice déjà construit, le campus, et 40 ans pour celui en cours de construction. Donc à l'époque, il était en cours de construction. Voilà, donc 20 ans et 40 ans, donc ça veut dire que c'est compliqué, quoi. 20 ans, quand tu as investi 13 ou 18 millions d'euros, je ne sais plus lequel a coûté combien, je crois que c'est 18, le campus, c'est compliqué, quoi. 18 millions d'euros pour les amortir en 20 ans. Et si dans 20 ans, la mairie te dit merci, mais on récupère maintenant, tu l'as dans l'os, en fait.
C'est un énorme risque politique.
Bien sûr. Parce que dans 20 ans,
peut décider de doubler.
Bien sûr.
C'est un pari sur l'engouement de la ville aussi. Donc,
mais tu ne sais pas où sera le club sportivement dans 20 ans. Si dans 20 ans, on est en Pro D2. Si en 20 ans, on est en Pro D2, on ne s'en sort pas.
Coupez-lui le micro.
Des clauses après couper pour sortir, le micro. Tu vois. Mais par contre, c'est un vrai risque. C'est que dans 20 ans, la mairie peut dire...
Non, mais quand je te dis qu'on est en Pro D2, bien sûr, quand je te dis qu'on est en Pro D2, c'est que d'un coup, la mairie peut dire, bon, en fait, le club qui est en Pro D2, là, c'est bon, là, les terrains qu'on leur donne gratos et tout, alors que nous, on peut faire des trucs pour des projets à nous, pour nous. Peut-être, tu vois, le HTV qui remonte en Pro B, allez, le HTV, tu vois, ou le Sporting qui serait en D1 à ce moment-là, on peut toujours rêver.
Enfin, 20 ans, c'est pas 4 siècles non plus.
Non, mais tu vois, tout est possible sportivement que nous on soit pas bien avec la mairie, une mairie qui arrive, je sais pas si la mairie devient extrême gauche à Toulon. Eux, le sport et tout, ils en ont rien à faire en fait. Tu vois, ils ont d'autres projets pour la société
extrême droite non plus.
Donc tu vois, bon bref, en tout cas, c'est jamais bon quoi. Il y a des choses comme ça dans ce rapport qui est alertant. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer, mais mais c'est alertant. Et donc, les gens qui alertent, il ne faut pas les prendre pour des fous. Voilà, c'est...
Et quand on pense, on va dire qu'à un moment, président Lemaitre voudra vendre le club, quand on, je veux dire, un repreneur potentiel, il va lire tout ça, honnêtement, à moins d'avoir une passion pour la région, pour le club ou je ne sais quoi, je ne suis pas sûr que ce soit le club sur lequel j'investirais.
Ouais, c'est
oui, compliqué. Parce que ça a fait, quand on prend les tableaux quand même, à partir du moment où tu commences à contracter tous ces prêts, etc., tu as d'un coup des charges qui augmentent de 5-6 millions d'euros par an, quoi. Donc, c'est d'autant plus à équilibrer à la fin. C'est d'autant plus compliqué. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Et à noter quand même que Bernard Lemaitre, une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé, il a modifié dans les statuts la limite d'âge des administrateurs du conseil d'administration pour le passer d'abord à 85 ans. Je pense qu'à l'époque, il devait en avoir 80 à peu près. Et puis, 3 mois après, il a changé d'avis, il a monté à 90 ans. Je pense qu'il a dû se dire 85. J'imagine qu'il a été tué,
quoi. Ouais. Et après 120 ans, c'est ça, non?
Ouais, c'est donc, ça.
Parce que ça tue sterment, c'était 75 ans à l'époque, je crois, ou 65, je ne sais plus. 65. Et voilà, donc il a monté à 90, ce qui nous donne peut-être aussi une petite idée. Je pense qu'il n'ira pas au-delà, donc on s'en doutait un petit peu, hein, mais je pense qu'il s'est fixé cette limite de 90 ans aussi, quoi. S'il est toujours à la tête du club à 90 ans, c'est qu'il est toujours en bonne santé, c'est qu'il a toujours l'énergie pour le faire, donc voilà, ça serait déjà beau. Mais effectivement, comme tu le disais, Gérald, les points finalement qui ressortent dans ce rapport, c'est bien parce que là, au moins, on va dire, c'est quelque part, c'est officiel, c'est public. C'est des points que nous, on remontait depuis des mois, pour lesquels parfois on s'est fait critiquer, pour lesquels parfois on a été visé. Bon, maintenant, c'est la Cour des comptes. Vous pouvez critiquer la Cour des comptes si vous le voulez. En attendant, les mises en garde, là, je trouve qu'elles sont quand même...
On critique bien les arbitres, hein. On peut critiquer la Cour des comptes. Bon, voilà, non, sinon, il faut 15 points, il faut 15 points et tout ira bien.
Ah oui, d'accord.
tout ira bien. Oui, en tout cas, je pense que si on commence à refaire régulièrement des demi-finales et des finales, ça peut fortement arranger quand même nos affaires.
Oui, c'est ça.
Quand tu regardes les revenus, les saisons où tu fais des phases finales, d'un coup, ça flambe parce que les billets sont vendus beaucoup plus cher, que le stade est plein, que tu es dans des grands stades, que tout le monde va acheter son maillot parce que tu es en demi ou en finale. Là aussi, hein, ça tourne à plein, hein, les boutiques à ce moment-là. Hein, donc, il faut espérer.
Bah, de toute façon, ils le disent clairement. Ils disent ça va être ardu d'accroître significativement la billetterie et la vente de produits dérivés, sauf à ce que le club retrouve des résultats sportifs aussi victorieux qu'au cours de la décennie passée. C'est écrit noir sur blanc, quand même. Voilà.
C'est écrit dans son banc.
Un quart de finale de Coupe d'Europe à domicile ou qu'on va jouer au Vélodrome.
Il n'y a plus de Coupe d'Europe.
Plusieurs millions dans les poches.
Ouais, mais comme la Coupe d'Europe, il n'y en a plus.
Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus qu'à l'époque, on le faisait sur les deux compétitions.
Quoi. Ouais,
on est loin
ça.
Sur les deux compétitions.
C'est ça. Ouais. C'est là où on voit aussi, tu vois, quand tu vois ce rapport-là et que tu vois l'argent que doit injecter Lemaitre, tu comprends aussi qu'on aille au Vélodrome. Tu vois, moi, je entends bien les mecs qui disent ouais, mais quand on va au Vélodrome, on joue à l'extérieur, ça fait chier et tout. Mais oh, c'est 60 000 personnes. Alors même si c'est des places gratos dans les 60
000. J'aime le Vélodrome.
Non, j'aime pas le Vélodrome, je supporte pas.
Mais t'en as quand même vendu 40 000.
Mais ouais, et puis c'est des mecs aussi qui vont acheter des coca, qui vont machin, qui prennent une écharpe, tu vois. C'est aussi des consommateurs, quoi. Donc voilà, c'est important dans notre équilibre qu'on aille une fois au Vélodrome et pourquoi pas deux fois, trois fois.
T'attires des fans différents aussi. T'attires des fans plus jeunes, t'attires, voilà. Mais bon.
Des Marseillais.
Deux fois, c'est beaucoup. Je comprends que c'est beaucoup.
Tu vois, Aurélien, tu avais raison hein, quand tu dis qu'on est souvent loin dans les deux compétitions. Nous, d'ailleurs, la Coupe d'Europe, on a gagné 3 fois d'affilée, pas comme La Rochelle.
C'est vrai, ça, dis donc.
Non, mais nous, on a gagné la vraie Coupe d'Europe. On n'a pas gagné une Coupe d'Europe avec des Africains du Sud et tout le bordel.
Parce que les mecs, ils ont des bouches, là. Et bon, il faut à un moment donné...
Mais je suis sûr qu'ils vont nous écouter, en plus, parce que j'ai vu que sur Twitter, là, ils étaient assez actifs. Alors, si vous nous écoutez...
Mais redescendez.
Redescendez, puis on sait très bien qu'on a gagné psychologiquement ce match. Si on vous croise en quart, ça va vous faire mal aux fesses.
Ouais. Voilà. On viendra avec Leicester, bon, vous allez voir. Merci.
ça va vous faire bizarre, hein. Ça va pas être la même que Smiley. Bon, ben merci beaucoup, messieurs. On a fait 1h13, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je trouve que globalement...
On n'a pas parlé des espoirs. Intéressant. Juste un petit truc,
pardon.
Très important. Parce que vraiment, pour les minots, ça me fout les boules. Les espoirs sont à la lutte avec Castres pour la dernière place qualificative pour les demi. Toulouse est un solide leader, il n'y a rien à dire. Ce week-end, on a battu Castres. Donc, normalement, on leur passe devant. Mais surprise, quand on regarde le classement, il y a une énorme carotte qui est apparue. C'est que Castres est devant nous parce qu'il y a 15 jours, ils ont perdu un match à Toulouse. sportivement, bien sûr, aucun souci. Et ils ont porté réclamation et ils ont eu match gagné, et là je cite, hein, pour une erreur de transcription sur la feuille de match dématérialisée. Donc, Cédric Béal, il parle de manque d'équité sportive. C'est un euphémisme.
Ouais. Comprenez, mafia cassoulet.
Voilà, exactement. La mafia cassoulet tourne à plein régime. La semaine dernière, en Fédéral 3, il y a Osgore qui a été requalifié par la commission d'appel en quelques jours avec un problème similaire. Alors, évidemment, pour qu'il y ait appel, il faut que le Stade toulousain se manifeste et fasse appel contre la décision. On ne sait toujours pas ce que décide le Stade toulousain. Si le Stade toulousain est le si grand club qu'il prétendent, eh ben normalement, ils vont à la commission d'appel et on voit ce qui se passe avec cette affaire, qui est un scandale aujourd'hui.
Le derby Toulouse-Castres n'existe plus depuis très longtemps, donc ils vont s'arranger comme ça. Ils sont une heure de route les uns les autres, ils s'arrangent comme ça et puis.
Ouais, et puis comme ça, de côté. Puis Toulouse leur dit, on vous donne match gagné, comme ça, vos deux meilleurs espoirs, on va les prendre comme ils ont fait avec Gelon chez Dupont.
Exactement. Bon,
je travaille pour le plus gros sponsor du Stade Toulousain, laissez-moi faire.
Donc, après, la mafia cassoulet, la mafia...
la mafia parpaing dans ta gueule, tu vas voir, si vous n'allez pas annuler le truc.
Exactement. Et il y a trois Toulonnais qui partent en stage pour les U20, là. Il y a la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Il y a Samuel Jean-Christophe, ouais. Corentin Mézou, pépite en seconde ligne, et Louis Morland. Donc voilà, bravo à eux.
C'est quel poste ?
Alors Samuel, il me semble que c'est un seconde ligne, je ne veux pas dire de bêtises. Corentin, c'est un seconde ligne sûr. Louis Merlan, on est sur les arrières. On est sur la ligne de trois quarts. Mais
je croyais qu'on n'avait que des mercenaires à Toulon.
Non, mais c'est fini ça. Ça, c'est terminé.
Ah, je suis énervé contre tout le monde. Et contre l'arbitre.
Eh bien, merci messieurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et puis on va quand même pas se quitter sans ce petit banger.
C'est les pronos de Bastien. Yeah. Oh, le mec qui est gentil, qui est bien.
Après le chien américain et le poulpe allemand, et moi maintenant.
Dites-nous sur Twitter si vous avez kiffé ça, je vous fais la chanson entière.
Je vous enverrai le fichier Excel.
Tu n'imagines pas jouer avec une chemise blanche à moitié ouverte là sur la plage. Allez, salut les gars.
Salut tout le monde.
Ciao. Ouais, bonsoir quand même.